Alors bonjour à tous, quant à moi je m'appelle Nawel Koumezi, donc je fais partie du Média 2016 et je vais être accompagnée par Arzad.
Bonjour, je m'appelle Arzad, je suis web reporter sur le Média 2016.
Donc nous avons animé cette table ronde qui, comme vous l'avez remarqué, il y a de nombreux acteurs présents pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, à poser même une stress, une idée ou une réflexion sur ce thème et échanger sur les jardins en ville et précisément sur le sujet de
le vivant de la vie.
Vivant dans la ville.
Voilà. Donc vous avez compris, donc Alexis vous a énuméré les différents intervenants qu'il y a ici présents, donc la PES et plein d'autres. Donc nous allons tout au long de cette émission écouter plusieurs extraits, aussi plusieurs diapos pour vous expliquer le travail que nous avons fait en amont pour aboutir à cette émission extrêmement riche. Et dans un premier temps, vous pouvez, alors vous êtes ici, que vous puissiez tous voir, le premier reportage qui a été fait en allant visiter l'exposition Capital Agricole, où nous avons interviewé justement Alexis, qui est le médiateur de ce forum. Ici présent.
Bonjour, juste pour rebondir rapidement, je resitue la chose. On est d'accord par aujourd'hui, cette journée, et en fait, autour de l'exposition dans laquelle vous êtes présent, qui s'appelle Capital Agricole, qui revient sur les initiatives en ville en agriculture urbaine. Et donc avec Ligne 16 et Web Reporter, ils ont réalisé des petits reportages autour de cette thématique. Ils sont allés à la rencontre des habitants du quartier et ils ont mené des interviews avec nos partenaires. C'est comme dans ce cas-là que s'inscrit cette intervention.
C'est ça. Justement, c'est et donc on est parti de la base, à savoir l'exposition. On est allé aussi visiter cette exposition accueillie par Alexis et donc ils sont partis d'interview d'Alexis.
Justement, c'est ce que vous avez dit.
Voilà.
Nous sommes ensuite allés interroger les habitants de la région du Jura, savoir ce qu'ils pensaient des jardins partagés en ville.
Donc voici un extrait justement de cette de ce micro-trottoir recueilli par les habitants.
On est à Paris.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des jardins partagés en ville?
C'est mieux pour les partager des villes et pour les enfants, pour tout le monde.
Je crois que j'avais vu un truc, vous avez fait sur Paris un truc sur les toits. Je crois que j'avais vu ça, ouais. Donc pourquoi faire ça, ouais. Vu qu'il n'y a rien sur les toits, autant faire ça, c'est bien. Les partager entre les habitants d'un même immeuble.
Quand on a le jardin, on a des petits arbres, c'est ça. Il y a l'air qui entre, donc je pense que c'est bien. Mais avec ça, il y a d'autres qui sont convenients. Par exemple, ça, moi j'habite là, tu vois, moi j'habite là. Là j'habite là. Donc il y a les pigeons, il y a les insectes. Quand on a des arbres, il y en a ça aussi.
Ben, c'est des morceaux du terrain qu'on peut cultiver, mettre des herbes, des salades.
Avez-vous une idée à nous proposer pour développer les jardins en ville?
Ben, il y a le paillon là en passant de chez moi. Elle est vide. On ne peut pas faire de l'eau et les donner avant de ramasser les tomates, les piques et tout.
Alors, nous avons pu remarquer, en écoutant les différents témoignages des habitants de la rencontre de Turin et d'autres aussi, qu'ils étaient peu au courant de l'engouement qu'il y avait derrière les jardins partagés et aussi qu'ils confondaient souvent jardins partagés et parcs. Donc, c'est...
Poulet vert, qui nous parle de la poulet verte.
Voilà, qui nous parlait de la poulet verte, donc ils ne savaient pas trop faire la différenciation entre les deux. Donc est-ce que quelqu'un pourrait réagir, soit par rapport à ce que je viens de dire, ou par rapport à l'extrait que nous venons d'écouter? S'il y a des gens qui veulent réagir, n'hésitez pas. Okay. Allez-y.
Non, effectivement, je pense qu'il y a toute une histoire des jardins, et chaque jardin renvoie à une histoire particulière. Et il y a des témoins du passé. Les jardins ouvriers appartiennent au passé. Ils existent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne crée plus de jardins ouvriers. Les familiaux, c'est presque pareil, parce que moi je viens d'une ville calme, on continue à faire beaucoup de jardins familiaux, mais ça correspond aussi peut-être à l'histoire, peut-être à l'absence d'histoire de la ville calme. Voilà, donc c'est bien, il faut bien resituer à chaque fois, effectivement, ne pas confondre les familiaux avec les partagés, ne pas confondre les partagés avec les ouvriers. Et voilà, je pense que c'est, il faut éclaircir ça un peu dans la tête des gens.
Parce que,
ouais,
effectivement, c'est le nombre de mots pour expliquer justement cette confusion des habitants par rapport à ce sujet qui, somme
toute, est extrêmement important. René Fiaschi, président de l'association européenne, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit et par rapport au reportage. Il n'y a pas énormément de jardins partagés. Ça, c'est déjà le constat. Il y a des jardins ouvriers, effectivement.
Dans les zones maritimes, on n'a pas beaucoup.
C'est ce que je suis en train de dire. Mais il y a des jardins ouvriers, on a un exemple à l'Ariane qui date de 1940, qui a été créé, je ne vais pas passer pour l'histoire, l'histoire, simplement pour rappeler un petit peu les
jardins familiaux.
Voilà, donc ils ont été créés dans des situations particulières, puisqu'en fait il y avait la guerre en fait, hein, et donc voilà, il y a une utilité qui s'est exprimée, un besoin de créer des jardins. Encore par des ouvriers, comme bien dit, nous non. Après, encore une fois, je reviens à cette idée que quelque part des jardins partagés n'a pas énormément. Moi, je sais que sur Cannes, par exemple, on reçoit même des personnes handicapées pour jardiner, donc le tremplin est fait. Et sur nos jardins d'Ariane, effectivement, nous avons bâti depuis 2001-2002 à peu près des jardins pédagogiques et partagés. Et en même temps avec cette notion d'accueil de personnes handicapées, les PMR. Voilà, avec des tables bien appropriées, de façon à ce qu'elles soient, qu'elles vivent ensemble. Elles viennent cultiver, elles viennent vivre et faire ensemble sur ces jardins, avec effectivement, je pense que le gros danger c'est ça, c'est de bien organiser un jardin partagé dès le départ, avec des règles strictes, voilà, de bonnes règles de fonctionnement, et de façon à ce que ce soit bien partagé par tout le monde. Quoi. Et encore, j'insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir peut-être une meilleure connaissance de ces jardins partagés à partir du moment où la vie, je ne sais qui, met à disposition beaucoup plus de surface. D'ailleurs, sur Nice, on est fonctionnel.
Est-ce
que vous
peut-être
aussi dans le jardin. Je sais qu'il y a le jardin de Messicard, il y a le jardin sur le pierre du biologie. Sur l'Ariane, il y a près de 4 à 5 000 mètres carrés de jardin. Il y en a peut-être d'autres.
Alors, nous allons vous faire découvrir les jardins partagés de Saint-Roch.
Oui,
le puisque le mercredi, du coup, on fait l'atelier Web Reporter ici même au 109. Et c'est vrai que moi, mes jeunes, je ne peux pas non plus faire des grosses distances. Du coup, vu qu'il y avait ce jardin à Saint-Roch, Janine va arriver, elle m'a envoyé un petit texto disant qu'elle était en retard. Et on a donc découvert cette parcelle de verre rue Vauban, à l'angle de la rue Vauban et Alfred Thomas. Et donc, c'est vraiment, par contre, une initiative d'habitants qui au départ est pour conserver ce bout de verre puisque la ville avait le projet de faire un rond-point. Et en fait, ça fait depuis des années, ils se sont attribués des parcelles et ils accueillent aussi l'école Saint-Roch. Donc voilà le petit extrait. Voilà le petit extrait de Jacqueline. Puisque c'est vrai qu'on a vu vraiment cette permaculture qu'ils font dans ce jardin. Voilà tout ce qu'on a dit hein, sur la terre, faire attention à la terre, la remuer doucement, prendre le temps. Et les web reporters, en arrivant dans le jardin, ont fait cette réflexion, mais qu'est-ce que c'est tout sec et tout. Et finalement, c'est vrai que c'est l'hiver, mais après, quand elle nous a fait visiter tout le jardin, c'est magnifique. Donc, voici l'extrait.
Alors, un jardin partagé, c'est une zone cultivable qui est mise à disposition des habitants, moyennant une redevance modique, afin qu'ils pratiquent le jardinage et qu'ils récoltent ce qu'ils ont produit. Et à chaque fois, j'allais sous cet arbre, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est bien là-dessous, c'est incroyable. Enfin, on n'est plus en ville, on n'est plus en ville, quoi. Du coup, c'est comme ça qu'en rentrant sur ce terrain, je me suis rendu compte que c'était un endroit qu'il fallait garder. Mais moi, très souvent, c'est vrai, j'ai fait cette expérience, j'arrive, je suis fatiguée, je suis stressée, je repars chez moi. C'est incroyable. Et j'ai vu des gens aussi très excités se calmer sous cet arbre. Alors, il y a, enfin, ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'il y a des recherches. Au Japon, par exemple, on fait des thérapies dans les forêts, des touches de forêt, ils appellent ça. C'est une véritable thérapie médicale. Hein. Ce sont des scientifiques qui... voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, plus on met d'arbres dans une ville, plus on va humaniser la ville. Voilà. Et il y a même des études américaines qui ont montré que plus... Enfin, dans les endroits, il y avait des espaces verts, des espaces avec des arbres, il y avait beaucoup moins de délinquance et même de crimes.
Alors, est-ce que vous voulez réagir à cet extrait par rapport à ce
qu'il
vient de se dire?
En fait, si on vous a montré cet extrait, et aussi l'objet de cet échange.
Ah,
ben
il y a Jamie. Ah, voilà, voilà. Bravo, ah, Jamie.
La chose, en fait, l'objet de cet échange, c'était aussi de revenir sur la définition de jardin partagé. Oui. Quand on a échangé justement avec Tania, et qu'elle nous a présenté cette interview, elle nous a parlé de jardin partagé, ce qui est le cas dans l'idée de dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir vivre un endroit commun. Chacune va avoir une action sur ce lieu-là. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que le jardin partagé en soi, c'est presque comme une appellation. Et que pas tous les jardins peuvent porter ce titre-là. Il ne s'agit pas de parler de concept, il s'agit aussi de parler, comme le disait aussi de comment est-ce qu'on encadre et quelles règles on va poser pour qu'ensemble des personnes puissent aboutir à un projet viable et cohérent. Alors je voulais juste, avant de peut-être embrayer sur aussi ce que pour vous, ce que c'est qu'un jardin partagé, je voulais revenir sur ce que vous redemandez d'ailleurs à René. Pour lui, qu'est-ce que c'est d'abord que la notion de jardin partagé? Qu'est-ce que ça inclut comme règle, on va dire, de savoir vivre dans cette règle commune? À qui appartient le terrain exactement, parce que ça, c'est aussi une question importante, à qui est le propriétaire, qui va être en gestion de ce projet-là, et je pense qu'il faut aussi revenir sur cette notion-là qui est importante, avant de parler de projets, on va dire, plus spontanés, de citoyens qui veulent aussi porter un projet. Quels sont les modèles qui existent peut-être, et quels sont ceux qui naissent de manière plus spontanée? Alors René, est-ce que tu as, par rapport à ton expérience qui a justement à la thèse, deux minutes?
Non, ça risque d'être un petit peu long parce qu'en fait, ce sont des actions qui demandent quand même une certaine réflexion. Hein, de ne pas s'engager comme ça. Il y a plusieurs effectivement lieux où en fait ça peut se faire de façon plus ou moins différente. Alors je prendrai que l'exemple que nous connaissons bien sous la pelle, sur les jardins partagés. Ce sont des. Nous intervenons sur des jardins, sur des espaces qui appartiennent à la ville de Nice, entre autres. Je ne parle pas des jardins ouvriers. Hein. Bien sûr, l'arrière. Je parle bien des jardins pédagogiques et partagés que nous gérons sur les espaces publics. Ce qui veut dire que quelque part, on a une convention, pas dans les cours théoriques, mais voilà, on a sur la base d'une convention avec la ville qui nous met à disposition un espace de jardin avec un certain nombre d'aménagements plus ou moins réalisés en fonction aussi, bien sûr, de la culture.
Avec cet objectif de recevoir quand même les écoles.
Alors, ça c'est déjà la première base. Ce sont des jardins qui n'appartiennent pas à l'association. Ce qui veut dire, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que ça veut dire qu'en fait, du jour au lendemain, on peut très bien être remercié. Même si on les a entretenus pendant plusieurs années. C'est important parce que les personnes qui viennent, qui s'engagent dans ce processus, dans ce projet de jardin partagé, ce sont en général des habitants d'un quartier, un chemin arrière. On est censé apporter ce service à des habitants d'Ariane. On pourrait très bien prendre des gens de Saint-Roch, mais ils ont déjà le jardin d'Islam. Voilà, donc ils ont leur lieu, bien évidemment. Donc voilà, il faut qu'on arrive à rester sur des bases, en fait, et des règles assez, j'allais dire, un peu assez strictes dans un sens, puis quelque part, ces jardins d'appartement, on les confie à des habitants, c'est sur la base de règles. C'est-à-dire, en fait, une adhésion à une association. Ça veut dire une contribution si on fournit tous les éléments pour planter, les semis, les engrais bio, les outils, etc. Et en fait, il y a une espèce de charte d'engagement et de réciprocité entre les habitants qui vont utiliser, jardiner ces espaces-là, les entretenir au mieux, récolter et ramasser, si ça devient leur bien, vous êtes d'accord? Ça devient leur bien à eux. Alors, en évitant aussi de faire en sorte qu'il y ait un commerce parallèle. Et ce sont des cultures qui sont à leur invention, à leur famille. Donc, moi, je ne veux pas trop attarder, mais je pense que lorsqu'on met en place un genre comme ça, il faut qu'il y ait une démarche assez rigide, bien impliquée, bien partagée avec les jardiniers, de façon à ce que les choses soient claires dès le départ. Je prends un dernier exemple, la question de l'eau, qui va devenir de plus en plus importante. Et voilà. Si on n'arrive pas à avoir des accords avec la compagnie de l'eau, c'est assez rare, maintenant ça y est, on est tous censés payer l'eau d'arrosage, ça nécessite beaucoup d'explications auprès des jardiniers pour que quelque part ils utilisent des méthodes spécialistes de permaculture, hein, qui insistent sur le fait qu'il y a des méthodes de jardinage qui évitent de consommer de l'eau. Entre parenthèses, mais l'eau par contre est dans leur charge. Donc voilà, j'ai quelques exemples en fait qui peut-être permettre d'apporter un éclairage par rapport à une question. Là, c'est une question alors, le problème, c'est qu'en fait, tout le monde est responsable de l'eau. L'association, mais en même temps, les jardiniers, puisque c'est eux qui vont activer la consommation.
Alors là, justement, on peut rebondir peut-être pour voir si tu as des choses à ajouter par rapport au type de jardin partagé que mène le projet de la FES. Et la question de l'eau, puisque vous avez réussi à faire un puits, quoi, un forage.
Oui, non, ça c'est pas nous qui faisons, mais présenter le président du jardin partagé de Saint-Roch, donc il existe depuis 1993. Et donc pour rebondir sur la question de l'eau, nous avons la chance d'avoir de l'eau du sous-sol, c'est-à-dire que en fait le propriétaire, parce qu'au départ ce terrain était un privé, qui a fait un forage, et nous on a réussi à installer une pompe dessus. Et donc on pompe l'eau du sous-sol, à peu près à 4,50 m. Donc probablement c'est une résurgence du paillon, sauf c'est l'eau qui vient du paillon. Donc on a l'eau, c'est vrai qu'on a l'eau qui vient très facilement. Pour autant, on essaye aussi quand même de sensibiliser les jardiniers à cette question, puisqu'il y a quand même 2 ans en arrière, quand il y a la sécheresse, on s'est retrouvé sans eau. Donc la question peut se poser, étant donné les aléas climatiques, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ça, et puis de toute façon, d'une manière générale, il faut économiser l'eau. Hein, puisque tout ce qu'on enlève, disons, dans les cours d'eau, c'est autant de moins pour le cycle de l'eau, et donc ça perturbe encore plus. Hein, donc voilà, il faut. Donc nous avons certains adhérents qui ont mis en place des méthodes de permaculture, de paillage, qui semblent effectivement bien réussir. Donc, après, on n'oblige pas les adhérents à le faire, mais c'est vrai qu'on leur demande déjà de ne pas arroser en pleine chaleur, d'arroser le matin ou le soir, déjà, par exemple, économiser l'eau, ça ne s'évapore pas. Et puis, éventuellement, mettre des paillages de surface, donc ça, c'est. Voilà. Ça, c'est. Alors, après, question règlement, oui, tous les jardins partagés ont un règlement. Donc, c'est vrai que, sans être des capot, hein. On est obligé quand même de surveiller ce qui se passe, parce que c'est vrai que bon, malheureusement, certaines personnes peuvent ne pas respecter les règlements, et donc à ce moment-là, éventuellement, être...
mettre en danger le jardin, quoi.
Oui, voilà. Et puis bon, ben, comme dans tout lieu où il y a plusieurs personnes, il faut que les gens... il faut qu'il y ait un consensus qui se crée. Enfin, de manière globale, depuis qu'on existe, ce qu'on constate, c'est que ces lieux de jardin partagé, et en plus nous, donc on a, vous avez vu sur les photos, on a un grand avocatier. D'ailleurs j'ai amené pour vous montrer le produit. Là j'en ai récupéré aussi un peu de ça. Là ce sont les derniers. Et la commande de l'application, c'est un arbre qui produit des arbres que j'ai mis en hiver, comme si vous vous souvenez. Donc en fait, maintenant il va perdre ses feuilles. Si vous avez l'occasion de passer, il va perdre ses feuilles maintenant au printemps. Voilà, il va être en fleurs. Et il faut savoir qu'il attire plein d'abeilles sauvages. Donc, il contribue aussi à préserver la biodiversité, donc ça c'est très important. Et donc, pour rebondir sur ce que j'avais commencé à dire, moi j'ai constaté que ces lieux de jardin partagé, globalement, ce sont des lieux où les gens retrouvent du lien social. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que ce qui a d'inhumain dans notre monde, c'est le rapport au temps, les gens sont tout le temps pressés, ils n'ont pas le temps, alors ils se croisent, voilà. Et alors c'est très amusant parce que quand on est à côté, donc on est dans la ville, on rentre sur ces jardins, on n'est plus en ville, on n'est plus en ville, oui. Et il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on retrouve cette dimension de temps de la terre qu'on a perdu en ville. Et ça, ça crée beaucoup de violence. Et on ne se rend pas compte du temps qui passe sur la parcelle. Hein. Souvent, si on n'a pas de manche, on se dit, mais c'est pas possible, je suis là depuis 2 heures. Non, enfin, on se rend pas compte. Quoi. Et donc, on retire du lien social. Moi, je pense que ça, c'est une des fonctions aussi très importantes de ces jardins. Un peu de contrebalancer le stress de la ville, tous les aspects négatifs de la ville, et de retrouver quelque chose d'humain. En fait, on redevient humain parce qu'on est au contact de la terre, parce qu'on est dans de la verdure, et voilà, et on se met au diapason de la terre, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà. Donc globalement, il y a un bilan pour nous qui est très positif. Il y a des demandes des habitants, donc il y a une liste d'attente, parce que les gens se rendent compte que maintenant le béton, enfin l'être humain n'est pas fait pour vivre dans le béton, il faut autre chose. Voilà.
Alors Marc Frisley, l'atelier du Rossi, si tu peux peut-être représenter aussi également les missions de son association et peut-être rebondir aussi sur ce côté inclusion d'une culture en ville ou réhabilitation de l'île.
Ouais, donc l'atelier du 06, après avoir créé une trentaine de jardins partagés depuis 2008, parce qu'on a commencé à créer du jardin partagé en 2008, donc dans la majorité à Marseille, mais on a aussi créé un jardin à Cannes qui fonctionne très très bien, on a un jardin à Grasse, enfin, voilà, à la Trinité. Bon. Donc on a une longue histoire avec les jardins partagés. Ça c'était, je dirais, c'est une tranche, mais j'ai remarqué que quand on intervient sur la ville, très souvent, on change de temps en temps de tranche. Et là, depuis 4 ans, on crée des oliviers partagés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'à côté de certains jardins, il y avait des oliviers qui n'étaient pas du tout, enfin qui étaient complètement laissés en jachère. Donc on a commencé il y a 4 ou 5 ans d'abord à intéresser les jardiniers des jardins partagés à s'intéresser à leurs oliviers. Donc on a commencé à faire des collectes d'olives, on a commencé à apprendre aux gens à tailler des oliviers. Donc le principe, c'est que quand les gens récoltent des olives, on amène les olives au moulin, on leur rend de l'huile. Ensuite, on garde une partie de l'huile pour la valoriser, c'est-à-dire qu'on organise des ateliers du goût, on fait de la cuisine avec les huiles d'olive, on fait des dégustations, on fait tout un travail qui est très pédagogique avec les élèves, on travaille avec des écoliers, avec des collégiens, donc en général on travaille toute l'année avec eux, sur différentes, à l'automne on collecte, l'hiver on valorise, au printemps on taille, et après on organise les collectes qui auront lieu à l'automne et à l'hiver prochain, donc vraiment c'est un travail qui nous occupe toute l'année. On garde une partie de l'huile, on organise aussi des ventes d'huile. Avec cet argent, on achète des oliviers qu'on plante dans les écoles, donc pour essayer de redonner un second souffle aussi à l'olivier en ville. Donc voilà, c'est un peu une culture du partage. Et on essaye de créer des liens aussi entre les écoles, entre les écoliers eux-mêmes. Il y a des écoliers de Marseille qui correspondent avec des écoliers de Grasse. Alors c'est vrai qu'on travaille plutôt nous sur l'ouest du département, sur toutes les communes qui sont entre Grasse, Péménade, Le Tignier, Spéracède, Saint-Césaire, etc., etc. Et là, on arrive à Nice. Alors voilà, on a commencé. Moi, je suis allé voir à l'Ariane. J'ai compté les oliviers qui se trouvaient à l'Ariane. J'ai fait un peu la même chose au moulin. Donc voilà, là, on fait un recensement. Et à partir du moment où on trouve des oliviers quelque part, après, dans un deuxième temps, on va essayer de proposer à des familles, à des associations, à des centres sociaux, à des centres familiaux, de voir ce qu'on peut faire ensemble sur ces oliviers-là. C'est un peu le principe qu'on essaie de mettre en place.
Et d'ailleurs, on avait une très bonne dégustation de différentes huiles d'olive. Voilà. Et on voyait que l'huile d'olive supérieure était peut-être différente de celle
voilà.
De Tunisie ou
celle de... Voilà, voilà. Mais en parlant de Tunisie, ce qu'on aimerait, c'est que ce projet fasse des liens aussi avec le Maghreb, avec l'Espagne, l'Italie. Voilà, créer des liens entre des écoliers, des villes du bassin méditerranéen. Ce sera un des objectifs.
Faisable.
Et pour finir avec les jardins partagés, pour compléter ce que disait le président de la PES, ce qui est formidable avec les jardins partagés, autant on peut tout à fait comparer les jardins ouvriers et familiaux, même s'ils n'ont pas tout à fait la même histoire, mais dans le fonctionnement c'est exactement la même chose, que le partagé, on a effectivement, on a, il faut un, il faut faut un code, il faut des règles très strictes, il faut un règlement, il faut une charte. Mais quand on a ça au départ, on peut faire après des jardins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a une grande diversité dans les jardins partagés, on ne trouve pas du tout dans les jardins ni ouvriers, ni familiaux. Moi, sur les 25 jardins auxquels j'ai participé, il n'y en a aucun qui ressemble à aucun autre. Voilà. Pour parler de celui de Ranguin, par exemple, qui est vraiment un jardin qui est collectif à 100%, le partagé, il mixe toutes les formes, du plus collectif au plus individuel, mais même dans le plus individuel, il y a toujours une part de collectif. Donc, et on joue beaucoup avec cette variabilité-là dans le partagé.
C'est un peu représentatif, justement, des citoyens.
Aussi. C'est pour ça que, comme c'est les gens qui sont à l'origine de la fabrication, on n'a jamais... C'est comme à la cuisine, vous prenez les mêmes ingrédients, deux cuisiniers, vous aurez des plats complètement différents, mais les jardins, c'est exactement pareil.
Il y a aussi cette notion de transmission qui est assez intéressante dans les jardins partagés, qui n'a pas été... plus déjà abordé, le fait de transmettre aux enfants, le fait de transmettre à l'échelle internationale. Tout à l'heure, vous avez levé le doigt.
Oui, s'il y a bien, je voulais réagir aussi aux interventions.
Voilà, vous pouvez continuer le reste. N'hésitez pas.
Juste là, une question, j'ai pensé à un truc parce qu'on parlait du foncier. On attend peut-être beaucoup des communes mais qui ont peut-être pas, mais c'est pas la problématique. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des particuliers qui aient de conditions et qui puissent la mettre à disposition? D'accord, allez, c'est un particulier. Parce que ça va être une étape aussi. Parce que
vous pouvez parler que pour
répondre à ce que vous avez dit. Qui doit se lever un peu?
Ouais. Prenez le ça. N'hésitez pas. Levez-vous, criez, chantez.
Criez, chantez. N'hésitez pas à crier là.
Parce que moi je parle pas.
Plus fort, l'Ontarien. Plus fort, t'es pris.
Je vais préparer une thèse en doctorat en anthropologie sur le lien entre les humains et les végétaux. Donc, du coup, j'ai déjà eu l'occasion de papoter avec les personnes ici présentes au sujet des jardins de Nice. Mais j'ai été aussi observer d'autres jardins ailleurs en France. Et ce que je voulais dire, c'était parce que vous parliez de la réglementation des jardins, des choses comme ça. Sans avoir le même poids de la connaissance, moi-même là. Ce que j'ai pu constater, en tout cas, c'est que bah, déjà, c'est comme si il y avait de manière récurrente des retours ou des besoins nouveaux de se fixer à la terre. Par exemple, on parlait des jardins oubliés, et ça, c'est vrai que ça s'est fait dans le contexte, vous savez, de l'industrie au 19e siècle. On a emmené des gens, des ouvriers qui venaient de leur campagne, on les a mis comme ça dans les villes, parce que c'est comme ça que c'est fait, c'est d'ailleurs qu'ils sont venus avec des voitures, ils n'avaient pas encore de l'argent. Et qu'ils sont venus dans les villes, ils étaient entre quatre murs. Il y a eu des études qui ont montré qu'il manquait, il y avait le scorbut qui revenait, on était en période d'hygiénisme. Et donc en fait, notamment par rapport aux couvents et aux églises, il y a eu des actions qui se sont créées pour développer ces jardins, pour permettre de nous donner de la nourriture fraîche aux ouvriers et de lutter contre l'alcoolisme, parce qu'entre quatre murs, ils devenaient fous. Donc c'était un contexte vraiment particulier. Après, il y a eu entre les deux guerres, pareil, les gens devenaient fous, mais pour d'autres raisons. Et il y a eu le développement des jardins familiaux ou de loisirs. D'ailleurs, il y a une loi, c'est pour la petite histoire, qui a été créée en 1941 pour réglementer ces jardins dits familiaux ou de loisirs. Mais comme c'est 1941, vous savez, c'était la... Non, mais c'était pour la Vichy.
Oui, mais ça a été abolie.
Cette loi sur les jardins a été abolie avec tout ce qui s'est passé en 1941. Mais il y avait une loi à ce moment-là qui a réglementé les jardins. Et après, à partir de 1900, à l'après-guerre, il y a eu encore un besoin de tourner vers la terre, une grosse prise de conscience écologique. Et là, depuis, on constate qu'une réappropriation, on va dire, de la population civile, mais aussi de l'État, pour non seulement pour voir comment faire pour pour devenir plus écologique, être moins polluant, mais en plus parce que la population avait besoin de retourner vers les jardins. Donc il y a eu plein de sortes de choses d'ailleurs. Donc il y a la population qui se réapproprie des espaces publics. Je ne sais pas si vous connaissez aussi les incroyables comestibles, c'est un mouvement international, un mouvement social, qui se réapproprie les espaces publics en accord avec les villes. Mais il y a aussi d'autres formes, comme à Nice, il y a le jardin du chemin d'Ordeux dont on parlait. Ça, c'est l'église qui possédait le séminaire d'aéroport, qui a donné en gestion le bâtiment à un grand hôtel. Et derrière, le jardin en restante, merci, a été donné en gestion à une association graine de fermier. Voilà, et qui donc, pour essayer de voir comment elle peut, il y a une partie qui a été mise en, qui a été attribuée à des personnes, une partie est cultivée de manière collective et on s'aperçoit que ça donne des façons de gérer très différentes et même des tensions suivant que vous attribuez les mots. Et du coup, les gens s'approprient et pensent que c'est à eux. Ah, et puis alors après, quand on gère de manière collective, eh bien, c'est pas du tout la même façon. Puis il y a aussi des personnes qui viennent dans ces endroits-là, on n'en parle pas trop, moi je sais que tu dis ça beaucoup dans ma tête, qui viennent dans ces endroits-là pas pour être avec les gens humains, mais pour être avec la nature.
Oui.
Les autres espèces vivantes, en fait, que les humains.
Donc, c'est pas que les humains.
C'est ça, il y en a qui ont besoin de se ressourcer, ils m'ont parlé de ça, juste pour être avec la nature. Et voilà, et donc il y a ces espaces peuvent être publics, donc à la mairie, à la ville, ils peuvent être à l'église, ils peuvent être à des propriétaires privés, par exemple, on parlait de port. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la maison des moins anciennes, je ne sais pas si vous avez entendu. Bon, en fait, c'est une dame qui possède une grande maison là-bas, elle ne savait plus quoi en faire, elle a été squattée. Et donc, cette maison a été donnée en gestion à différentes associations qui, en attendant, alors je ne sais pas si elle va être vendue ou quoi plus tard, mais ces associations ont revalorisé le lieu en faisant des expos dans la maison et en faisant de la permaculture dehors. Différentes manières d'utiliser les espaces, mais visiblement la population, tout le monde a envie de retourner vers la terre pour.
C'est un besoin sociologique.
Sociologique, mais aussi c'est un retour vers les. C'est pas seulement sociaux, c'est retour à soi et la terre. C'est pas entre les. C'est pas seulement entre les humains.
Ouais. Il y a des riches d'infos et de bonnes adresses à l'association. Donc on est allé à Saint-Roch, on est allé à l'Ariane, on est passé par Cannes, mais nous allons retourner au 109 ici pour vous parler du jardin partagé de l'Anjou. Parce qu'il y en a un ici. Et justement, nous allons. Et du coup, nous allons écouter un extrait de l'interview de Jacques Laurent qui va nous en parler.
Alors ici, on est à l'entrepont dans le cadre du 109, un des anciens abattoirs de la ville de Nice. Et là, on est sur la maquette du tramway, sur ce que la ville devait installer le tramway pour le montrer. C'est vraiment... Voilà, donc là on est sur les parcelles qui servaient normalement, ce que je ne sais pas si vous avez vu le tramway, il y a des parties de gazon, et bien voilà, ils avaient refait la maquette avec le gazon au départ, et donc tout le mobilier urbain qui va avec le tramway.
Qu'est-ce qu'on va planter ?
Alors là, ce qu'on va planter, bon, il y a déjà des persistants, il y a des fraisiers qui datent de l'an dernier, il y a des artichauts qui reste. Donc là, ce qu'on va planter, c'est des plants de courgettes, on va planter des petits navets, on va planter des fèves, il y en a déjà qui ont été plantés, on va continuer avec les enfants. Et voilà, je pourrais d'autres encore, des courgettes, des potirons et des
concombres. Vous allez en faire quoi? Vous allez les vendre ou...
Non, alors l'idée, c'était l'an dernier, c'était d'avoir chacun une petite parcelle au niveau des gens qui travaillaient dans le fond. Non, l'idée, c'est que chacun se serve, plus ou moins, des gens qui travaillent. Souvent, il y a la cantine le mardi midi, donc ça puisse servir à faire les repas pour le mardi midi. Voilà, bon, après, sur ceux qui, parce que, de toute façon, la salle d'accueil, elle sert de cuisine, qu'on puisse se servir des légumes du potager pour faire la cuisine.
Voilà le jardin partagé de l'entrepont qui est né cet été et où, grâce à lui, nous avons mangé des congèles tous les temps.
Alors, nous allons conclure par l'intervention d'Alexis qui est le médiateur du programme, qui va un peu schématiser tout ça.
Et surtout nous dire la création de la marque, tout ça, mais voilà, pour les personnes.
Là, l'idée, c'était donc d'avoir un aperçu, un joli aperçu de l'écosystème autour des abattoirs. Et là, avec l'intervention de Jacques et ceux qui ont participé, et à l'atelier, qui ont aussi participé à l'atelier cuisine, c'est de voir qu'il y a des initiatives qui sont portées en l'occurrence par l'entrepôt ici, au 109.
Alors, un jardin partagé, c'est une zone cuisine.
L'idée, c'est en fait, évidemment, ceci est un prétexte et une proposition aux gens du quartier et aux associations présentes ici d'initier d'autres projets pour continuer dans le futur. Concrètement, donc, on a à la fois le jardin que vous avez vu à l'entrepont là-bas, et deuxième chose, on met en place, comme vous l'avez dit au début, un projet d'ABAP. Donc, certains sont déjà concernés, on a déjà récolté certaines inscriptions de personnes présentes ici. L'idée, c'est de créer un lieu de dépôt et de collecte de paniers ici au 109, d'ouvrir évidemment cette proposition aux habitants du quartier et créer une passerelle à l'intérieur du site. Pour cela, en fait, pour mettre en place ce projet-là, on a initié avec les AMAP du 06, récolter déjà des prêts à Mapia dans l'idée de constituer une intention, un fonds, c'est-à-dire de quoi on va avoir besoin, de quel on va aboutir aussi à savoir quel producteur on a gagné à solliciter, quel peut aller aussi être intéressé, parce que voilà, le projet du MAMAP, c'est aussi un engagement que José peut vous présenter ici.
Ok, merci.
C'est toutes les photos d'aujourd'hui, je vous dis. En vrac.
Je vais essayer de définir un petit peu le concept d'ABAP. Dans le département, enfin, à la ville de Nice, il y a déjà 5 ABAP qui existent. Hein, donc c'est pas un concept qui vient de. Il y a quelque chose. C'est un concept qui a été mis au point en 2001 à Aubagne. C'est au moment de la crise de la vache folle. Alors, je pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est la crise de la vache folle? Parce que il y a deux mois, j'ai fait un exposé sur les AMAP dans un lycée, il n'y avait que des étudiants et des étudiantes. Quand j'ai dit la crise de la vache folle, j'ai vu des yeux comme ça. Ils ont tous rangé. C'est quoi ils nous parlent?
On est tous des
bouleurs. Il y a bien une génération.
On est tous un peu plus masqués, on est tous mangés de la cervelle à cette époque-là.
Voilà. Donc, voilà. À ce moment-là, il y a des agriculteurs, notamment du côté des Jura, qui ont pris conscience que ce qu'ils étaient en train de faire comme agriculture était désastreux. C'est-à-dire l'agriculture à base de pesticides, d'insecticides, d'OGM, voire pire. Bon, ils ont pris conscience de ça, ils ont dit, moi en tant qu'agriculteur, enfin je parle à leur place, hein, moi en tant qu'agriculteur, je ne peux plus faire ça, à la fois pour mes enfants, pour ma famille et pour mes clients. Donc, ils ont décidé de changer de méthode. Mais quelle méthode? Enfin, quelle méthode? L'agriculture biologique, elle existait depuis longtemps, mais encore fallait-il faire référence. Et ils ont eu la chance de faire un congrès mondial, ça s'est passé à Tokyo, au Japon, coïncidence, et là, ils ont découvert le concept des Teikei. Les Teikei, c'est tout simplement la culture sans pesticides, sans insecticides. Et surtout, les Japonais, ils ont mis au point ce concept parce qu'ils étaient dans
voyez, là, Tokyo, je crois que vous savez très bien que c'est le déclinement, etc., la pollution maximale. Et donc, ils se sont aperçus que s'ils allaient cultiver en dehors de la ville, ou alors, et c'est les femmes japonaises qui ont eu cette idée parce que leurs enfants ils étaient allergiques au maximum, ils sont allés faire les potagers en haut des immeubles. C'est aussi bête que ça, mais en haut des immeubles, la pollution n'était pas encore montée, etc. Donc, ils se débrouillaient avec eux, etc. Ils ont vu qu'au bout de 6 mois, leurs enfants étaient moins allergiques et avaient une meilleure santé, etc. C'est parti de là. Ils sont revenus, donc, après ce congrès, et à Oban, ils ont dit, plus jamais on va utiliser les produits. Et puis, ce concept a beaucoup séduit, et donc, ça s'est développé dans toute la région PACA, dont nous faisons partie. Et puis, la première AMAP a été mise en place à Valbonne en 2003. Et puis, donc, le réseau qui s'appelait à l'époque le réseau des AMAP Alliance Provence, qui est devenu, il y a 4-5 ans, le réseau Les AMAP de Provence, ASM en Ile-de-France, ASM en Rhône-Alpes, et ASM dans toute la France. Ce qui fait qu'on a à l'heure actuelle 19 réseaux interrégionaux d'AMAP. Donc, 5 AMAP à Nice. 31, je dis bien 31 parce que vous allez être la 32e. D'accord. Dans les Alpes-Maritimes, 155, 160 en région PACA et plus de 2000 en France. Donc c'est un concept qui convient aux citoyens que vous êtes et que je suis. Moi je suis là aujourd'hui en tant que bénévole. Un papier convaincu, ça fait 15 ans que je suis à Nama et que j'ai toujours essayé moi de manger bio. Donc. Vous n'arriverez pas à me convaincre de retourner à notre alimentation. Bon, voilà. Alors, la MAP, c'est quoi? Très brièvement, c'est des citoyens, voilà, vous êtes là, comme moi, comme vous, qui disent, bon, l'alimentation qu'on nous a imposée pendant 50 ans, ben, finalement, c'est pas terrible. Essayons de faire autre chose. Et donc, la MAP permet de faire mettre en présence des citoyens et des producteurs, des maraîchers, des fromagers, des apiculteurs, tout ce qui peut exister. Donc, mais cela, à la différence de ce que fait l'agroalimentaire, c'est locaux, c'est-à-dire qu'ils sont dans votre ville, dans votre département, dans votre région, etc. Donc, leur production ne vient pas depuis des pays plus ou moins lointains. Et je dirais, mais c'est enregistré, oui.
Oui.
Et surtout pas d'Espagne. Voilà. Je prends mes responsabilités. Et voilà, si vous laissez tout un contexte, il y a des gens qui travaillent la terre et la travaillent de manière bio, et puis il y a des gens qui veulent manger bio, la MAP les met en présence. Et ce sont des bénévoles, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que quand vous allez signer, après je vais parler du contrat, mais quand vous allez signer le contrat avec le producteur de miel, ou le producteur de légumes, ou le producteur de fromage, ou le producteur de poisson, etc., c'est la famille qui signe le contrat avec le producteur. Donc la MAP n'est pas un intermédiaire. Il n'y a aucun prélèvement d'argent sur ce contrat. Ça, c'est très important. Et ça permet de savoir que dans le circuit AMAP, les prix sont tout à fait correct, et puis c'est le prix que propose le producteur. La MAP ne prélève rien, à part une adhésion au réseau de 11 euros pour l'année civile. Voilà. Donc il y a des AMAP qui en plus sont constituées de manière, je dirais, de manière juridique, c'est des associations loi 1901. Donc s'il y a une cotisation de l'ordre de 10 euros, 20 euros, etc., ça sera donné à la MAP pour qu'elle fonctionne. Moi, dans la MAP où je suis en fonction depuis 14 ans maintenant, on n'a pas voulu passer dans cette structure-là. On est association de type association de fête qui est reconnue par la loi, donc légale, et donc on ne demande aucune participation aux gens. Voilà.
Donc le principe, c'est que aussi on prépaye, en fait, on paye dans ce panier, et après, dans le cas, par exemple, si on revient au 109 et au projet qui nous relie à vous aussi, c'est qu'on vient chercher ce panier qui est déjà payé en vous.
Voilà. Le contrat, ça nécessite de faire des chèques, puisque bon, les producteurs, ce n'est pas des gens qui travaillent juste pour le plaisir, ils travaillent aussi pour. élever leurs enfants, leur famille, etc., et payer leur crédit.
Et moi, ce qu'on m'a demandé, c'est ceux qui n'ont pas de chéquier. Comment ils font avancer
la question difficile.
Parce que du coup, les chèques sont débités.
On a été confrontés un petit peu à ce genre de problème, et notamment quand on a voulu créer la map à la Trinité.
Et alors, comment ça se passe?
Ben, finalement, la seule solution qu'on peut proposer, hein, puisque c'est le contrat, c'est des chèques, 6 chèques, pour les 6 mois à venir qui sont payés. Alors soit c'est 6 chèques, soit c'est 3 chèques parce que l'apiculture est payé 3 fois, ou c'est 4 chèques parce que le producteur qui élève des poissons et des truites d'ailleurs du côté d'une station de ski gréolière a tombé par terre. Bon, c'est la publicité non payée. Voilà, s'ils viennent 2 fois sur l'année, eh bien vous faites 2 chèques. Donc 6 chèques, c'est pour le maraîcher. Et le maraîcher vient toutes les semaines, enfin lui vient toutes les semaines, puis vous pouvez prendre un panier chaque semaine ou tous les 15 jours si vous êtes une bonne famille. C'est toutes les semaines, si vous êtes une personne seule, c'est tous les 15 jours, ça suffit parce que le panier est copieux. Et j'y viens. Et donc le contrat, les chèques, etc. Mais la personne n'a pas de chéquier. Comment ça arrive? Alors, est-ce qu'il peut y avoir un versement direct sur la banque du producteur, un virement? Voilà, ça c'est une solution qui est tout à fait correcte, légale, etc. Mais c'est un accord entre la famille et le producteur. D'accord? Voilà, ça c'est une solution. Voilà, chaque mois, il y a un prélèvement sur une durée de 6 mois. Il ne faut pas faire un prélèvement. Le contrat est renouvelable tous les 6 mois. Ou alors vous pouvez faire un contrat d'un an, si vous dites, bon, ça me convient. Mais moi, au départ, je vous conseille de faire un contrat pour 6 mois. Et puis, si ça vous convient, bien vous restez, vous renouvelez. Si ça ne vous convient pas, pour des raisons X ou Y, certainement pas pour des raisons alimentaires. Je peux vous dire que la qualité gustative et la qualité nutritive de ce qu'il vous propose, c'est extraordinaire. On ne peut pas avoir une idée tant qu'on n'a pas connu la production des paysans bio du département. Dans notre département aussi, mais bon, ici, moi, je parle du 06.
Oui, en fait, je pense que tu as répondu, c'était ma question. Tous les producteurs sont bio.
Alors, oui et non. En amas, je ne sais pas où il y a pas. Tous les producteurs, et ça, c'est dans la charte, on a une charte qui est écrite en 2014, l'obligation, c'est pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'OGM sur ce terrain. Ça, c'est formel. Mais si le producteur n'a pas le label bio, bon, il y a plusieurs labels, hein, le label AB, la feuille, etc. Le seul label à l'heure actuelle qui est très strict, c'est biocohérence, et c'est les paysans bretons qui l'ont mis au point. Et en Bretagne,
là,
alors attends, parce qu'elle avait levé la main la première.
Ça fait plusieurs questions, là.
Laissez-le temps de répondre.
de 6 mois.
Donc si la personne au bout de 3 mois ne peut plus du tout, donc elle a payé pour 6 mois, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui peut récupérer?
C'est dans la charte, c'est obligatoire. La personne, si elle veut quitter là-bas, pour des raisons qui la regardent, ça peut être tout simplement des raisons de santé, eh bien, elle se charge elle-même de trouver quelqu'un qui la remplace sur le contrat pour aller à la fin du contrat. Voilà, ça c'est prévu, pas de souci.
Parce qu'il est important de comprendre qu'effectivement, pardon, je fais une parenthèse, cette formule de préachat permet aussi à un producteur d'avoir un volant prévisible de clientèle et d'engager son travail en étant certain d'avoir des débouchés. Voilà.
Association, la MAP, c'est association pour le maintien de l'agriculture paysanne et biologique. C'est pour les maintenir ici. Parce que quand on va, si on continue à faire, parce qu'il y a, suffit de lire les journaux ou de regarder la télévision, le nombre de paysans qui ont disparu depuis une dizaine d'années, c'est hallucinant. C'est grave. C'est devenu très très grave.
La moyenne d'âge, c'est plus de 58 ans que 25 ans. Et la moyenne d'âge des agriculteurs du département, c'est quasiment 60 ans, la moyenne.
C'était vrai. C'est moins vrai depuis 34 ans. Il y a une arrivée de jeunes qui peuvent reprendre le flambeau, qui n'est pas négligeable. Et
finalement, c'est accessible aux bourses des habitants en
plus de la ville. La réponse, elle est... La moyenne du mois de mai, c'est vers
20 euros.
Et vous avez une dizaine de produits à l'intérieur. 20 euros, certains montent à 21, 22, en accord avec les gens de la marque, si vous voulez. D'autres, c'est moins. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a Zabab qui font des paniers à 10 euros ou à 15 euros. Et c'est des paniers réduits, ça dépend du producteur. S'il a le temps de préparer des petits paniers, ben, il le fait des choses. Mais sinon, ils proposent le panier
et on prend tous les cas.
Ça dépend de chacun. Mais enfin, la moyenne, dans la production, c'est 20 euros.
Oui, c'est une question d'abord.
Fort.
Je pense que la question, c'est
vous plaît, s'il vous plaît.
Va demander de la poser.
Pas tous en même temps, parce que j'ai vraiment des problèmes de position avec le retour de l'information.
On parle de panier et on a posé la question. Le panier est approximativement de quel poids? Quel est le poids du panier?
Non. Oui. La question est intéressante, mais depuis au moins une dizaine d'années, je refuse de répondre à cette question.
Oui.
Pourquoi?
Parce que les gens demandent.
Mais pourquoi? Parce que ça dépend de chaque producteur, etc. C'est un problème de nombre de légumes dans le panier. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir une dizaine. Et c'est des légumes de saison. Donc ça varie au cours du temps. À certains moments, vous en aurez 5 ou 6 parce que l'hiver, ben, il fait ce qu'il veut. Après, vous en aurez peut-être 15. Donc, le prix du panier est lissé sur 6 mois.
Alors,
pendant 6 mois, il s'engage pour fournir quelque chose, un panier cohérent. Alors, on ne répond pas au prix du poids parce que c'est une question naturelle. Combien je vais payer, à combien ça pèse? Mais non, c'est trop, c'est variable. C'est par contre au nombre de produits qui arrivent.
Vous prenez par exemple des demandes. Non, mais c'est Marilyn qui me disait de poser cette question parce que chaque fois, on lui demande de combien pour savoir si on en prend un par semaine ou un par 15.
C'est vous qui décidez. Ça dépend du nombre de personnes dans votre famille. Si vous êtes toute seule, un panier de légumes. Si vous êtes deux, à vous de voir. Si vous êtes plus de deux, c'est un panier par semaine.
C'est pour ça que je pense que. Alors, vu la réverbération de la salle, est-ce que je peux demander de ne pas avoir de conversation privée dans votre coin? Silence. Parce que sinon, on ne s'entend plus. Merci.
Et est-ce que dans le programme, dans le projet, il y a une. Il y a une prévision d'organiser la toxique de la salle.
Oui, on va accrocher les éplucheurs de courgettes. Donc, je terminais. Je voulais intervenir sur une chose pour répondre à madame, qui était de dire on peut se reposer sur l'expertise effectivement du réseau pour nous proposer, en fonction des demandes qu'on a faites, en disant j'ai deux personnes, trois personnes, quatre personnes, une personne dans le foyer, de même, je pense qu'ils peuvent nous faire une proposition. Oui. Disant, je suggère que vous allez là-dessus. Donc, ils nous accompagnent là-dessus selon leur expérience. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir.
Disons, j'ai un rôle de facilitateur et je sais que depuis des années, je crois que je suis à la deuxième création pour faire accompagnement d'Amap dans mon expérience personnelle. Donc je sais où sont les pièges et je sais ce qu'il faut éviter, je sais les avantages, il y a les inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de venir chercher vos paniers tel jour de telle semaine. Donc ça aussi, il faudra vous mettre d'accord quel est le jour qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi? Et ça va dépendre du producteur. Si le producteur ne peut pas venir, il peut venir que le mercredi, donc ça c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient qui est majeur, je ne peux pas le dire, c'est que vous ne pouvez pas choisir les légumes qu'il y a dans le panier. Et pourquoi?
Tant mieux.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a choisi à votre place. Et vous savez qui c'est?
La nature.
C'est la nature. Parce que ce sont des légumes de saison. Et donc, les tomates, vous les mangez l'été ou vous ne mangez pas les mêmes. Et je peux vous dire que les premiers enfin, les nouveaux amapiers qui rentrent dans une amap, au bout de 6 mois, ils ont compris, ils se disent, mais je retrouve le goût de quelque chose extraordinaire, c'est vraiment la qualité nutritive et gustative, super. Et donc, je vais être obligé d'attendre encore 1 an pour retrouver ce goût-là. Et on s'adapte. Et on adapte les recettes, parce que quand je parle du genre, il y a des recettes, etc. C'est une autre approche de l'alimentation. Et on n'est pas habitué, on n'est plus habitué à ce genre de choses. On ne mange certains aliments qu'à certains moments. Et ça permet de renouveler, vous n'êtes pas là à aller chercher chaque semaine des aliments.
Et sachant que les moments où on vient chercher les paniers, c'est aussi un moment où on peut échanger des trucs ou des recettes. Oui. Genre, moi, j'aime pas les blettes, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Avant de vous prendre vos questions, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure et ce que vous avez dit aussi, à travers les jardins partagés, on crée du lien social. Et ça, c'est fondamental et on s'en aperçoit. Les nouveaux qui arrivent, ils prennent le panier, ça va. Puis au bout de 2 ou 3 fois, ils commencent à discuter avec les autres amapiers, ils commencent à discuter avec les producteurs, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est fondamental. Le producteur a l'obligation d'être présent à la livraison.
Comme ça, c'est donc, des réflexions que faire.
Il vient avec ses fromages, il vient avec ses légumes, il vient avec son bière, et vous pouvez lui dire que ça, c'est pas bon. Voilà. Ce qui est rare, je vous rassure. Mais voilà, il y a un dialogue. Et ce dialogue se renouvelle le jour de l'Assemblée générale. Nous, on en fait une pour la saison d'été et une pour la saison d'hiver. Bon, après, si vous voulez choisir.
Allez, on va franchir sur le dernier question.
Moi, je voulais savoir si on est intéressé, comment ça se passe, l'inscription.
C'est maintenant. On a déjà deux gens qui participent et qu'on peut mettre à jour tout de suite avec Alexis. Madame,
il y en a pas encore. Quelle année,
moi, je voulais poser une question par rapport aux parler des légumes et tout. Dans un panier, moi, j'avais compris qu'on pouvait avoir des légumes verts, avoir par exemple des œufs, du fromage. Alors, comment ça se passe là?
Alors, très bien. Très bonne question aussi. Ça me permet de donner une réponse. Chaque produit, c'est un contrat. D'accord? Si c'est des œufs, il y a le contrat. Si c'est des légumes, il y a le contrat. Si c'est un autre produit, il y a le contrat. Parce que tout le monde n'est pas obligé de prendre tous les produits. Donc chacun prend ce qu'il veut, signe le contrat qu'il veut. Ce qui est obligatoire, c'est le maraîchage. Alors vous êtes obligé de prendre les légumes. Ça, là, vous le trouvez. Il n'y a pas le choix. Et après, vous pouvez prendre tous les contrats que vous voulez.
Et les produits, on peut les recevoir en même temps.
Ah, si. Si vous avez choisi le vendredi soir, les producteurs sont obligés de venir tous les vendredis soir. Ça dépendra du jour que vous avez choisi. Ça vous n'allez pas vous déplacer.
Le jour de distribution sera le même pour tous les distributeurs.
C'est ça.
Hein? Et comment ça se fait?
S'il vous plaît.
Merci. Je n'entends plus rien.
Oui, je demandais juste comment se fait le choix du jour.
Ah, mais c'est bien. Vous allez faire un peu ce que j'ai décidé. Sauf que j'ai déjà pris des contacts avec des producteurs. Il y en a une qui est prête, pas pour les légumes. Pour les légumes, il faudra voir, peut-être que je vais reprendre un autre contact. Pour tous les autres produits qu'il y avait sur la liste, c'est-à-dire il y avait des œufs, des confitures,
du miel,
des Là, il y a déjà des personnes qui seraient prêtes à venir soit une fois par semaine après 18h30, soit le samedi après 16h, samedi après-midi. Et ça, ça se négocie.
C'est-à-dire que voilà, très concrètement, et pour répondre un peu à votre question, madame, la parole a déjà circulé entre les gens résidents du site et des gens du quartier. On a déjà une liste d'à peu près 33 personnes pour 70 personnes en fonction de cela. Aujourd'hui, on a ramené la liste ici, vous pouvez rajouter votre intérêt. Il y a un certain nombre de colonnes sur les produits possibles. Les légumes, les fruits, les œufs, le miel, etc. Selon le nombre de personnes qui sortira, il y aura peut-être